les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après deux émissions en public au Canada et en France, retour en studio avec de la poésie, un roman qui agite notre équipe et un reportage à Montréal. Elle est avec l'auteur d'Harry Potter, celle qui fascine le plus les jeunes amateurs de littérature fantastique et d'héroïque fantasy. La Québécoise Anne Robillard a vendu des millions de livres dans les pays francophones. Nous avons assisté à une séance de signature au dernier Salon du Livre de Montréal avec ses fans. Extrait.
C'est pour qui celui-là ?
Alors là, c'est pour ma meilleure amie. Je viens de Normandie et j'ai découvert les Chevaliers d'Émeraude au collège. Et j'ai partagé avec ma meilleure amie et c'est devenu un truc de fou. Et on est allé sur le forum, on était cuillères et c'était génial.
Ah bah, je suis contente de te rencontrer finalement.
Moi aussi.
Chez moi en plus, la vie est remplie de magie, ma chérie.
Un reportage à Montréal avec Anne Robillard et ses fans. Tout à l'heure, vous allez être surpris. Il y a 100 ans, à un mois près, disparaissait Guillaume Apollinaire. Nous rendrons hommage à sa poésie et nous dresserons un portrait intime avec la spécialiste Laurence Campa. L'écrivain belge Antoine Waters est aussi en plateau avec nous pour son nouveau livre. Un roman humaniste qui va peut-être vous choquer. Une réaction face aux violences de la société qui divise notre équipe. Et puis une séquence livre de poche cette semaine avec Olivier Guèze. Prix Renaudot 2017 et une lecture du chanteur MC Solar.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine. C'est le grand retour d'Annick Dore pour représenter la Belgique cette semaine. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Mais écoutez, ça va fort bien. Je suis très contente de revenir parmi vous.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazrine, à la Hulpe. Première émission pour vous, donc, depuis la rentrée. Bienvenue à la maison, Annick.
Merci, Annick. En France, cette semaine,
on retrouve Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux, à côté de la Défense. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jérémy Lagnel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou et vous représentez le Canada. Nous verrons si vous êtes en forme cette semaine.
Ah, ben, toujours en forme.
toujours en forme. Très critique aussi. Et puis cap sur la Suisse avec Dominique Bressoux à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Laurence Campa.
Bonjour Emmanuel.
Nous parlerons de Guillaume Apollinaire dont nous célébrons le centenaire de sa mort en cette fin 2018, le 9 novembre 1918, juste avant l'armistice. Il meurt à Paris de la grippe espagnole. On commence toujours cette émission avec une histoire, une anecdote étonnante. Et Laurence, on vous a demandé de réfléchir à une histoire étonnante liée à Guillaume Apollinaire pour l'occasion. Quelle histoire avez-vous choisi?
En fait, Emmanuel, Apollinaire aimait beaucoup les cartomanciennes, les voyantes.
Ah oui.
Il trouvait que c'était intéressant parce que non seulement elles étaient extra-lucides, mais elles avaient aussi un don qu'il trouvait assez poétique et qu'il pensait avoir lui-même, qui était une forme d'observation très aiguë de la nature. Et dans une chronique du Mercure de France en 1911, il raconte une de ses expériences, justement, de consultation d'une voyante qui s'appelle Madame Violette de Roy.
Oui.
Et il explique que cette dame lui a dit des choses absolument étonnantes, avec des conclusions flatteuses, je cite, mais des détails fâcheux. Et il n'en dit pas plus. Et on se demande bien ce qu'elle a pu lui raconter. Et maintenant, on le sait, parce que qu'on a retrouvé à la BNF, dans une liasse, quelque chose qui était passé inaperçu, qui est le brouillon de cette chronique, et qui explique en fait que Violette de Roy lui avait prédit qu'il deviendrait célèbre par la pornographie et le vol de la Joconde.
Oui, c'est
donc,
vrai. Oui.
Mon cher Emmanuel, la suite de votre émission va nous dire si Madame de Roy a eu raison.
Et oui, parce que l'histoire de la Joconde est liée à une histoire de vol de statue. Et puis la pornographie, on va parler encore de sexe encore cette semaine, c'est horrible, c'est pas possible chaque semaine.
Je ne suis pas du tout étonnée.
Bon, on verra cette histoire étonnante autour d'Apollinaire. Merci Laurence Campa est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Antoine Waters.
Bonjour.
On a parlé de sexe aussi un peu avec vous, hein, parce que vous publiez chez Verdier « Pense aux pierres sous tes pas », un roman qui fait réagir. C'est un vrai roman qui se situe dans un lieu imaginaire dont vous dessinez la carte. Un pays sous l'emprise d'un régime autoritaire. On est où à peu près? Vous avez une idée où?
Partout et nulle part.
Non.
Mais moi j'avais en tête la Sardaigne essentiellement.
Ah d'accord, moi je voyais ça plus dans le Nord.
Dans le Nord.
Ouais.
Ah bon, on m'a jamais dit ça.
Nord-Est,
on m'a dit la Roumanie.
Oui, un peu plus haut.
Ouais. Ouais. Non, pour moi c'est une fable, donc ça ne se situe à proprement parler nulle part. Mm-hmm. Et je voulais que ce soit un pays où chacun d'entre nous, on pourrait trouver des résonances mm-hmm. avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Alors vous racontez dans ce contexte la vie de Marcio et de Leonora, mm-hmm. des jumeaux, garçons et filles, qui inversent les rôles à 11 ans et qui vont se rapprocher à la puberté un peu trop. Les parents le découvre et c'est plus qu'un drame, c'est le rejet.
Bah oui, ils s'aiment d'un amour absolu depuis toujours. Ils vivent dans un milieu familial très pauvre, dans une famille très violente. Un père qui est obligé de travailler pour un régime au mmh. début du livre politique qui ressemble quand même dans les grandes lignes au communisme.
Ouais.
Et ils doivent honorer un certain nombre de quotas, des productions de viande, de céréales. Le papa n'a pas de temps à consacrer à ses enfants et étant totalement et constamment sur les nerfs, c'est vrai que la seule forme de contact qu'il a avec ses enfants, c'est un contact violent. Et je pense qu'en réponse à ça, peut-être, eux forment une sorte de bulle, d'entité mmh. Parfaitement close, où leur amour peut exister.
Vous abordez donc, comme ça, ce thème tabou de l'inceste entre frères et sœurs, jumeaux de surcroît. Et ça va loin, Antoine, ça va très loin. Vous décrivez des scènes sexuelles, très, très précises.
Moi, c'est une façon de présenter. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est vu à hauteur d'enfant. C'est vu à hauteur de... Oui, oui, il y a des scènes de sexe, c'est-à-dire que eux, à la différence de nous qui lisons le livre, il n'y a pas de jugement moral. Et mon travail, moi, c'était essayer de me placer simplement à la hauteur de leur expérience et de l'expérience qu'ils font de la vie, sans positionner en fait.
Mais vous l'écrivez pas avec des mots d'enfant.
J'ai l'impression que la langue de Leonora est la langue d'une fille qui est assez jeune. Ouais.
Bon, on verra tout à l'heure ce qu'en pensent nos libraires.
J'ai l'impression que je vais me faire cuisiner.
Pas du tout. Pas du tout.
C'est juste je vais m'en aller.
Je vais m'en aller. Mais non, tout va bien. On va écouter pour vous adoucir la BO de votre livre, Antoine Waters. Vous avez choisi Mylène Farmer comme Régis Geoffrey un jour dans cette émission. La même chanson en plus. Je ne sais pas ce que vous avez avec ça. Sans contrefaçon, on écoute un extrait et vous nous expliquez juste après. Pourquoi Mylène Farmer et sans contrefaçon Antoine Waters?
Parce que une des obsessions des jumeaux, c'est le travestissement. C'est l'idée de jouer avec leur identité dans tout ce qu'elle peut comporter et notamment l'identité sexuelle. Je crois que c'est quelque chose que les enfants pratiquent beaucoup. Et il y a une scène au début du livre où ils vont se déguiser, elle en son ouais. frère et lui en elle. En essayant de tromper les parents de façon à ce qu'elle puisse faire ce qu'elle ne peut pas faire en tant que fille la plupart du temps, c'est-à-dire travailler à l'extérieur, travailler avec son papa dans les champs, et lui va se déguiser en fille et la maman va découvrir ce travestissement et à partir de là les choses basculent.
Alors il y a un traumatisme lié aux parents, ces enfants sont en manque d'amour et comme le contexte social est compliqué, ils n'ont que cette solution pour apaiser cette douleur, s'aimer plus fort encore. C'est un peu pour compenser ça finalement, ils cherchent un secours affectif.
Oui, je pense qu'ils ont deux horizons possibles. J'essaie que cette histoire qui est violente se passe dans un lieu où, sur le plan de l'environnement, de la nature, les choses soient assez douces. Il y a des fleuves. Donc mm-hmm. J'ai inventé ce pays.
Oui.
Il y a de grandes plaines comme ça, très arides. Mais c'est une nature qui est belle. et qui leur fait beaucoup de bien. Ils vont se baigner dans des fleuves qui s'appellent le Bordougou, l'Irigoudou, des noms qui évoquent pour moi la Sardaigne. Et l'autre horizon de possible, l'autre horizon de bonheur qui est le leur, c'est effectivement cet amour, mais que donc eux ne vivent pas comme quelque chose d'incestueux. Ils n'ont pas d'amis.
Ouais.
Ils ne vont plus à l'école.
Mais alors, ils vont aller avec des amis à un moment. Ils vont transgresser
tard,
à nouveau.
Ouais,
c'est-à-dire que Léonora va être envoyée chez un oncle, exclue du foyer familial par le père. Elle va donner son corps comme ça à des copains du village. Là encore, le manque d'affection fait que, c'est ce qu'on traduit en tout cas de votre histoire.
Et puis Marcio
va finir par la rejoindre. Et lui aussi ira avec des copains batifolés. Mmh. Et ils diront tous les deux, ne tombez pas amoureux de nous. Nous ne sommes pas fiables. Notre besoin d'amour est impossible à consoler.
Mmh.
C'est terrible.
Ouais. Mais c'est parfois très vrai. Je crois que quand on vit une séparation, quand on vit des drames comme ça intimes, la seule réparation possible, étrangement, passe par un morcellement encore plus grand de notre vie, de notre identité. Et ça passe par une recherche désespérée, en fait. Il y a du désespoir là-dessous, d'amour.
On va laisser la parole à nos libraires, place à notre débat. Antoine Waters, n'ayez pas peur, tout va bien. Les quatre ont lu votre livre, Antoine. La France, le Canada, la Suisse et la Belgique, on commence par qui ?
Ah bon, on commence par la Belgique.
Allons-y, la Belgique, avec vous Annick Dor.
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Donc c'est vrai que c'est d'une violence inouïe et en même temps d'une très très grande beauté. Et je trouve votre tour de force, c'est de parler de sujets terribles sans tomber ni dans le glauque, d'après moi, ni dans le cliché. Et donc le livre a quelque chose d'impérieux et de salutaire, puisqu'il y a un chemin quand même de résilience, en posant toute la question en plus de l'asservissement et de l'émancipation. Et moi je trouve que vous faites ça avec beaucoup de brio. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'avoue.
Ça commence bien, vous voyez.
Ouais.
Thomas Auxerre, vous êtes un peu plus critique en France.
Bah oui, parce que alors voilà pour moi un livre pour lequel j'ai un sentiment partagé. D'un côté, je l'ai lu d'une traite et votre écriture m'a beaucoup plu. Par contre, d'un autre côté, il y a cette histoire d'amour incestueuse et puis aussi la violence dans ce monde reclus où peu de personnages sont épargnés. Là, pour le coup, je dois dire que je me suis pris ça un peu en pleine figure, hein, c'était moins agréable. Bref, j'ai été secoué, je ressors pas indemne, mais bon, ça va me trotter dans la tête quand même, ça c'est bien.
L'essentiel, c'est de s'en souvenir.
Absolument.
En fait, c'est un peu le principe de la littérature.
Bah, c'est vrai. Ouais.
Dominique Bressou, en Suisse, ça ne passe pas du tout, ce livre.
Non, pas vrai. Non. J'ai eu beaucoup de mal à terminer, en fait, ce livre. Il y a une telle violence psychologique et physique chez les tyrans domestiques, politiques, que j'ai simplement pas pu entrer dans l'histoire. Et en plus, j'avais un peu l'impression que l'auteur avait sa conception de ce qu'est la liberté et qu'il me l'imposait. Et moi, j'aime pas tellement le prêt-à-penser. Alors, en même temps, ce qui est certain, c'est que ce livre ne m'a certainement pas laissée indifférente.
Voilà. Jérémy Laniel, au Canada, vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est un auteur que je ne connaissais pas, mais c'est chez un éditeur que je respecte. Et pour moi, ça, c'est déjà toujours une belle rencontre à venir. L'écriture ici est magnifique, autant que le livre est cruel et violent. C'est tout simplement sublime que cette offrande d'Antoine.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un magnifique livre, Antoine Waters. On n'est pas du tout d'accord dans l'équipe, y compris dans l'équipe de la rédaction. Mais voilà, c'est ça aussi,
mais
le débat
c'est très
culturel.
Bien. Je suis très content. Par contre, je trouverais ça suspect, un bouquin qui génère l'unanimité. Je pense que c'est pas l'idée. Moi, j'enferme des personnages, des êtres humains, avec leur beauté, leur bassesse, leur part d'ombre, dans une maison. Et puis j'abats les murs et j'essaye que voilà les lecteurs soient confrontés à tout ça. Alors effectivement ça peut choquer, mais moi je pense que c'est quand même un bouquin qui parle d'espoir au-delà de la violence dont il est question. Le tout début du livre dit que ils ont terrassé les ombres, Marcio et Léonora. Je pense que c'est ça leur parcours.
Alors il y a de beaux passages, hein, Antoine. Vraiment, il y a des moments où ils établissent des règles pour survivre à sa propre famille. C'est absolument terrible, mais c'est très bien écrit, c'est très bien formulé, avec des mesures contre la peine. Mmh. Ils inventent des mesures contre la peine, on vous laissera découvrir. Il y a aussi en parallèle la lutte contre le régime politique du pays, incarné par l'oncle Zio. Tout ce qui se passe dans votre livre, c'est une concrétisation de la révolte, Antoine Waters, en fait.
Oui. J'ai inventé ce monde, donc je suis parti du très petit, du minuscule, de l'intime, de cette relation passionnelle entre un frère et une sœur. Et puis j'ai dû inventer beaucoup plus largement le pays, politiquement, géographiquement. Et c'est vrai que la dimension politique est en toile de fond, m'a permis de laisser s'exprimer un certain nombre de colères que je porte en moi.
Moi, la révolte, c'est ça, ouais.
Oui, mais
ça conduit à l'impensable, ça, la révolte. Ça conduit à la transgression.
Mais oui, je pense. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'on en a besoin aujourd'hui de gens comme le personnage de Zio, l'oncle.
De quoi? De la transgression ou de la révolte?
De la révolte, dans un premier temps, et puis peut-être d'une forme d'insoumission.
Pourquoi?
Parce que je pense que c'est la moindre des choses à une époque où je crois qu'on est totalement dépossédé de notre liberté, de notre avenir, de notre destin. Et ça me semble important de pouvoir poser des gestes, y compris si ces gestes sont des gestes de désaccord, comportant même peut-être une part de violence, bien sûr.
Oui, y compris si c'est tabou.
Y compris si c'est tabou, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mmh. Ouais.
Bon. Merci beaucoup Antoine Waters.
Merci à vous.
Merci. Votre roman Pense aux pierres sous tes pas est paru chez Verdier, magnifique maison d'édition. Jérémy Lagnier l'a souligné et je tiens à souligner aussi le travail exemplaire de cette maison d'édition aux couvertures orangées. Merci beaucoup Antoine.
Merci à vous.
À suivre le reportage à Montréal avec Anne Robillard et notre séquence livre de poche avec Olivier Guèze. Et voici la chanteuse Leila Makala avec la Vivier Neg dans la librairie francophone.
La vie vient comme c'est sous crêpe solide, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient comme c'est sous crêpe solide, même si la terre c'est pas faute malhérée. Là je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient qu'à marcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient qu'à marcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis là j'en pas fait pour l'eau,
non pas je parlais.
Mes amis là j'en pas fait mon nénon,
non pas je parlais.
Mes grands-grands félites et pensées,
non pas je parlais.
Mes amis là j'en pas fait pour l'eau,
non pas je parlais.
La vie vient n'écarcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas votre malhéré. La vie vient n'écarcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. Là j'aime pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là j'aime pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis là j'aime pas fait pour nos
poches malhérées.
Mes amis là j'aime pas fait mon nénon,
nos poches malhérées.
Mes grands contrées l'idée pensée,
nos poches malhérées.
Mes amis là j'aime pas fait. Mes frères et les dépensés, oh,
non pas je parlais.
Mes amis là j'en pas fait pour nous,
non pas je parlais.
Mes amis là j'en pas fait mon nénon,
non pas je parlais.
Mes grands frères et les dépensés,
non pas je parlais. Non pas je parlais.
Leila Makala avec la Vivier Neg sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Retour au Salon du Livre de Montréal à présent. Vous ne connaissez peut-être pas Anne Robillard, mais vos enfants et vos ados ont forcément entendu parler d'elle. Les Chevaliers d'Émeraude et les Chevaliers d'Antares battent des records de vente partout dans les pays francophones. Les fans sont très nombreux et se retrouvent en masse lors des séances de signature, des séances mises en scène avec des personnages de ces romans. Nous avons suivi cette auteure québécoise, pas comme les autres, au milieu de son public.
C'est pour qui ? Ben merci ma belle chouette.
Bonjour Anne Robillard.
Bonjour.
Vous êtes une star de la littérature jeunesse. Les enfants, les adolescents vous lisent partout dans le monde francophone. Il y a comme ça une ferveur autour de vous. Il y a quelque chose de très particulier, Anne.
C'est la magie. Je mets de la poudre de fée dans tout ce que j'écris. Non. J'écris des choses que les gens ont envie de lire. Je les sors de leur quotidien. En fait, c'est une évasion. Ce que je propose, c'est une évasion, mais une saine évasion. Et je pense qu'il était temps parce que les gens en avaient besoin.
Alors, il y a des personnes qui vous accompagnent à chaque fois, oui. Qui sont déguisées, qui ont les cheveux rouges, là, par exemple, ou qui ont les cheveux roses.
Ce sont les personnages des livres.
Bon, allez-y, continuez votre signature.
C'est un cadeau de Noël?
Non, ça va être un cadeau ce soir.
Un cadeau ce soir?
C'était sa commande avant que je parte pour venir ici.
Ah, Simon ne pouvait pas venir.
Non, non, mais il reste pas dans la foule.
Il n'aime pas les foules.
Donc, il n'aime pas le...
Simon, il est quand même. Il est autiste, mais il est quand même.
Il est énormément. Après, il se met à nous parler de ça, mais nous, on ne comprend rien de cet univers-là. Non, ça ne nous intéresse pas. Très bavard sur le sujet.
Il y a des histoires incroyables parfois, parce qu'effectivement, des enfants autistes qui lisent vos histoires et qui se plongent complètement dedans.
Ça leur fait du bien. Il y a des choses incroyables. Il y a même des gens qui m'avaient écrit « Je les ai sauvés du suicide ». On ne se rend pas compte de ça quand on écrit un livre, qu'on peut aider les gens à ce point. Kaliska!
Qu'est-ce qu'elle fait, Kaliska? Bonjour, Kaliska.
Bonjour.
Vous êtes un personnage de roman, vous, hein?
Oui, moi, je suis sortie directement de son livre.
C'est vrai, avec les cheveux roses. Vous avez une magnifique robe rouge satinée.
Oui, parce que je suis une reine, en fait.
Ah, vous êtes une reine, pardon. Donc, je vous appelle Majesté.
Vous pouvez, mais vous pouvez m'appeler Kaliska aussi.
D'accord.
Est-ce que tu voulais que je t'apporte quelqu'un d'autre?
Oui. Tu peux venir, ma chérie.
Et à côté, il y a une jeune dessinatrice qui dessine les couvertures. Bonjour, mademoiselle.
Oui, je dessine les couvertures. Je travaille avec Anne depuis peut-être 4 ou 5 ans. Et j'étais fan, en fait, au départ. Je suis venue la voir sur un salon, à une dédicace. Et je lui ai parlé de mon travail, je lui ai glissé un petit mot. Et je sais pas, c'est le destin. Un an après, elle m'a recontactée. Et alors, je t'avais écrit une petite lettre,
je me souviens.
Sur un parchemin. Et elle m'a recontactée. Et depuis, voilà.
Et vous venez de France?
Oui, je viens de France, ouais, j'habite en Bretagne. Et là, je viens pour la première fois.
On est une collaboration franco-québécoise.
Voilà, c'est voilà, ça.
C'est ça. Bonjour madame, vous lisez Anne Robillard?
Ben oui.
Depuis toujours?
J'ai tout lu ce qu'elle a fait
à l'âge. Ah oui, même à l'âge adulte, on peut lire Anne Robillard alors?
Oui, ben oui.
Vous vous demandez quel âge vous avez?
54.
Ah oui, et vous êtes fascinée par Anne depuis toujours?
Ah, j'ai tout lu ce qu'elle a fait à date. C'est vraiment bon. Là, je suis contente, je vais pouvoir la rencontrer.
Je vais vous accompagner à la table. C'est moi qui vais faire le roi.
Oh, hein? C'est parfait.
J'en rêve depuis des années.
Ah, bien voilà, on va vous appeler votre majesté maintenant.
Ah, bien s'il vous plaît.
La majesté de la radio.
Exactement. C'est à madame.
Hey, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ça va bien?
Oui.
Je peux avoir une dédicace de votre couverture de...
Pour qui?
Pour moi. Non, moi qui? Moi qui l'ai. Nicole.
Alors voyez, on parlait des adolescents et des enfants. Anne, mais il y a des adultes qui lisent vos livres.
Il y a des adultes, il y a des grands-mamans aussi, des grands-papas. Il n'y a pas de catégorie pour ces livres-là. On essaie de dire ça au libraire, mais ça ne fonctionne pas.
Ah oui, vous êtes dans le rayon livre jeunesse.
Oui, ils mettent dans jeunesse, mais dans le fond, c'est pas jeunesse.
Non.
C'est pas jeunesse, c'est vraiment pour les gens qui ont besoin de magie. Il n'y a pas de rayon besoin de magie.
Vous y croyez à la magie, Anne?
Eh oui.
Ah oui?
Eh oui.
Non, mais là, vous jouez un rôle.
Moi aussi.
Je crois aux anges. Je crois qu'il y a des choses vraiment spéciales qui peuvent nous arriver quand on y croit.
Bonjour, Adrien.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venue acheter des livres puis regarder des livres.
Ouais. Et Anne Robillard, alors?
Ça fait plusieurs années que je lis. Je les ai toutes lues. Toute la série des Chevaliers d'Emeraude, Zirtinenkdev et les Chevaliers d'Antares.
Ouais, tu as beaucoup lu parce que ce sont des gros livres quand même. Hein?
Mais ça fait 3 ans à peu près que j'ai lu. Je les ai lus plusieurs fois, 3 ou 4 fois.
Ah oui, chacun?
Ouais.
Ah ouais. Tu as quel âge?
12 ans.
12 ans. Alors lequel tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais lu Anne Robillard?
Le 9e des Chevaliers d'Emeraude.
Pourquoi?
Parce que je l'ai bien aimé. C'est intriguant.
Ah, c'est ça. Merci, Adrien.
Merci.
T'es un champion de lecture. Génial.
C'est pour qui, celui-là?
Alors là, c'est pour ma meilleure amie.
Ça fait comment?
Elle s'appelle Ariane.
Avec un N?
Avec un seul N.
Quel est votre prénom?
Lydie.
Lydie, vous venez d'où, Lydie?
De France. Je viens de Normandie. Et j'ai découvert les Chevaliers d'Emeraude au collège. Et j'ai partagé avec ma meilleure amie. Et c'est devenu un truc de fou. Et on est allé sur le forum. On était cuillères. Et c'était génial. Et ben, voilà, c'était...
Et la rencontre à Montréal avec Anne Robillard.
C'est la première fois qu'on se voit, pourtant je suis allée en Normandie, t'étais pas venue.
Non, mais j'ai bougé pour les études et puis même avec ma meilleure amie qui est toujours en France, on s'est un peu perdu de vue et ça en fait c'est... Enfin voilà, c'est
énorme. Ah ben, je suis contente de te rencontrer finalement.
Moi aussi.
Chez moi en plus.
Et en plus tu vas t'entendre dans la librairie francophone en France sur France Inter.
Ah, c'est vrai la surprise. La vie est remplie de magie, ma chérie.
C'est complètement fou. Merci, merci, merci.
Je suis contente d'être rencontrée.
Mais moi aussi.
Eh ben, c'est émouvant, hein. Waouh.
Et c'est comme ça.
C'est tout le temps comme ça. Moi, je vais pas tenir 4 heures avec vous. Je vais jamais rester 4 heures avec vous.
Moi, je me dis, un auteur, on est seul avec son crayon ou son ordinateur et on arrive ici. On a des gens qui viennent nous dire qu'ils aiment ce qu'on fait.
Eh oui.
Ça fait tellement du bien au cœur. Ça donne le goût, ça donne l'énergie de continuer.
Vous y croyez à toutes vos histoires, vraiment? Vous êtes plongé dedans? Vous n'avez pas de mal avec le quotidien, parfois, Anne?
Ben, mon quotidien est assez simple parce que je vis chez moi. J'ai un chien, une maman. J'ai vraiment le temps de vivre avec mes personnages. Puis quand on parle des personnages chez moi, ils font partie de la famille. Là. On en parle comme s'ils étaient vivants.
Vous n'avez pas peur à un moment de basculer? Vous n'avez jamais eu peur de...
Je pense que c'est plutôt le contraire.
C'est ça.
Je pense que si, en les sortant de ma tête, parce qu'ils sont tous déjà là-dedans, c'est une thérapie. Ça m'empêche justement de me retrouver dans une maison et de me faire enfermer.
Bon, merci beaucoup, Anne Robillard.
Ça fait plaisir.
Vous êtes très généreuse. Vous êtes une auteure magnifique avec le public. C'était magique ce que j'ai vécu là, vraiment.
Ben, merci. J'espère que tout le monde est comme moi. On a besoin.
On espère. Merci, Anne.
Merci. Bonne journée. Merci.
Et l'ensemble de l'œuvre d'Anne Robillard compte environ 40 livres. Chaque volume fait 500 pages, vous imaginez. Elle est éditée par Whelan au Canada et Michel Lafon en Europe. Dans l'actualité des livres de poche à présent, la sortie du roman d'Olivier Guèze qui racontait la fuite du monstre nazi Joseph Mengele. Changement d'ambiance, bien moins drôle. Un livre qui a obtenu l'an dernier le prix Renaudot.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Joseph Mengele est entré dans l'histoire pour deux raisons principales. Donc, c'était un médecin SS connu pour deux choses. La première, c'est lui qui a procédé à un grand nombre des trains de déportés qui venaient de toute l'Europe et qui auraient envoyé, je dis auraient parce qu'évidemment c'est très difficile de compter, 400 000 personnes directement à la chambre à gaz, donc qui avaient pouvoir de vie et de mort, et qui se singularisait par sa mise impeccable et le fait qu'il était toujours sobre, alors que la plupart des SS étaient ivres-morts, alors que lui était sobre, impeccable, bottes lustrées.
Alors, surnommé l'ange de la mort.
Surnommé l'ange de la mort. Il a
expérimenté des choses sur des enfants.
Et puis, surtout... parce que, donc, en tant que médecin à Auschwitz, il a procédé à toutes sortes d'expérimentations, notamment sur des enfants, et en particulier sur des petits jumeaux.
Voilà. Bon, c'est vraiment le symbole de la cruauté nazie, hein. Un médecin satanique, même les sympathisants nazis ont du mal à entendre les horreurs qu'il a commises. Et en faisant de Mengele, finalement, un personnage central de roman, vous faites vivre, revivre sa mémoire. N'est-ce pas un honneur indécent, Olivier Guèze?
Je me suis pas posé la question comme ça.
Je vous la pose. Alors,
je crois pas. Moi, ce qui m'intéressait, voilà, tout le monde a entendu parler de Mengele, ce qui quelque part est assez étonnant parce que ce n'était pas du tout un hiérarque nazi. C'était un médecin parmi des centaines de médecins ayant sévi dans les camps de concentration. Ce n'était qu'un capitaine SS et il y en a eu des centaines et des milliers, des capitaines. Mais effectivement, vous l'avez dit, il est devenu le symbole de l'horreur nazie. Et ce qui était intéressant avec Mengele, c'est que tout le monde sait qu'il n'a jamais été arrêté, donc il n'a jamais été jugé. Et donc moi, je me suis posé la question, qu'est devenu Mengele après Mengele? Mais il faut bien comprendre que dans l'immédiate après-guerre et dans les années 50, personne n'a jamais entendu parler de Mengele. Mengele est vraiment un moustique dans l'histoire du nazisme à ce moment-là. Mengele n'est pas recherché en Allemagne. Mengele a figuré sur une liste de criminels de guerre américaine dans l'immédiate après-guerre. Cela dit, le nom de Mengele a été prononcé plusieurs fois lors d'un des procès de Nuremberg qui concernait les médecins nazis. Et c'est à ce moment-là que Mengele comprend que ça va peut-être être compliqué pour lui de réapparaître en Allemagne et qu'il décide, comme bien d'autres, de quitter l'Allemagne et l'Europe pour fuir en Argentine en 1949.
Mengele va aller en Argentine, donc, sous le nom de Grégor.
Oui.
Effectivement, vous ne parlez pas que de la vie de Joseph Mengele.
Non,
c'est le plus fort. Hein. C'est quand il est en Argentine et qu'on voit l'Argentine de Perón qui épouse Evita, qui se retrouve comme ça à haranguer les foules. Et Perón souhaite que l'Argentine soit finalement une alternative au capitalisme américain et au communisme soviétique. Il espère même une troisième guerre mondiale.
Tout à fait.
Il l'attend d'ailleurs.
Beaucoup de gens attendaient, craignaient, et dans le cas de Perón, espéraient une troisième guerre mondiale, notamment la guerre de Corée qui devait dégénérer. Parce qu'en fait, Perón est convaincu que la nouvelle superpuissance, ce sera l'Argentine. Et c'est pour ça qu'il fait venir des centaines et des centaines de techniciens, de scientifiques, d'avionneurs, de militaires pour développer l'Argentine.
On va lire un extrait de votre roman, Olivier Guèze. C'est une surprise pour vous, c'est MC Solar qui a accepté cette lecture. Et il va lire cet extrait sur la musique de Wagner.
Wow.
Le justicialisme péroniste ne tient pas ses promesses. Les trottoirs de Buenos Aires sont toujours défoncés.
les trains n'arrivent pas à l'heure. Perron dépense sans compter et brasse du vent en Patagonie. Richter l'a roulé en engloutissant des centaines de millions de pesos sans produire un watt d'électricité nucléaire. L'économie argentine titube et fabrique des babioles. Rudel et Grégor y voient l'influence néfaste du christianisme. Perron n'agit pas avec la brutalité qui convient parce qu'il reste entravé par des inepties judéo-chrétiennes, la compassion et la pitié, toute forme de sentimentalisme dont le nazisme s'était débarrassé. Grégor méprise la coterie catho-fasciste qui entoure El Lider, des hommes faibles et des tigres sans dents, comme Day, ce fanfaron qui prétend avoir pris le thé avec Hitler et le Shah d'Iran. Son mouvement d'unité populaire internationale, du blabla, sa troisième guerre mondiale, un fantasme d'enfant.
Olivier Guez, un petit commentaire, cette lecture d'M.C. Solar.
Ça me donne envie d'envahir la Pologne.
Non, c'est pas sérieux.
C'est sérieux.
Mais non, mais Olivier. Non, mais c'est un sujet qui est super grave, c'est horrible. Ce que vous écrivez est horrible et vous en faites de l'humour.
Mais parce qu'on me demande toujours comment c'est de vivre avec Mengele. Mais c'est magnifique. Déjà, je suis ému, c'est M.C. Solar qui lit ce texte sur le péronisme. Non, ça, c'est pas les pires passages du livre.
Non, on lui a épargné justement les pires passages du livre à M.C. Solar.
Non, il faut pas non plus exagérer. Je veux dire, ce livre est aussi comme. C'est comme un roman d'espionnage. C'est raconter le destin d'un criminel contre l'humanité. Ouais. Et qu'est-ce qui advient à ce criminel contre l'humanité après avoir assassiné des milliers de gens et torturé des enfants? Voilà.
Le roman d'Olivier Guez vient de paraître en poche au Livre de Poche. À suivre dans votre émission la poésie de Guillaume Apollinaire avec Laurence Campa dans votre librairie francophone Apollinaire qui est mort il y a tout juste 100 ans. Ce sera après le tout nouveau titre de Dominique A.
Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux. Je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier et ces grues. Au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort, d'images qui saisissent et rendent presque heureux. Souvent, je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort, d'une image à sauver. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circule. Et même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie. Tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement.
finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a tant à gagner parfois quand le temps vous oublie.
Dominique A, le temps qui passe sans moi sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et la chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule que vous attendez chaque semaine. Et on commence avec le gros coup de gueule de Jérémy Laniel au Canada, ce qui n'étonnera personne. Jérémy, allons-y.
Non, mais faut connaître les délais de livraison des nouveautés européennes pour vraiment savoir à quel point ça peut nous rendre complètement fous ici en librairie au Québec. Oui. Vous savez, des livres qui vont arriver avec 2-3 mois de retard après l'actualité française, où on finit par en faire recevoir un Nicolas Mathieu, il va remporter le concours et tout d'un coup, oh, plus de stock, hein, on attend les bateaux, ils vont arriver un jour. Adeline Dieudonné, La vraie vie, publiée chez l'Iconoclaste, toujours manquant ici au Québec, quelques librairies en ondes, Belle chasse au trésor, si ça vous tente, Emmanuel, revenez au Québec, tentez de trouver le livre. Donc, c'est une chance, on a une littérature vivante et dynamique, mais les nouveautés et les délais de livraison, c'est complètement dingue.
C'est un vrai problème, hein, depuis toujours, hein, depuis que l'émission existe, j'ai entendu parler de ces problèmes. C'est fou.
Voilà, ça s'arrange pas.
Bon, il faut faire quelque chose, si vous nous entendez, il faut absolument que les distributeurs et les éditeurs se débrouillent. Merci Jérémy. Annick Dor en Belgique, un coup de cœur pour votre retour.
Exactement, parce qu'on connaît l'auteur belge Charlie Deloart, hein, entre autres pour Le Circuit qui était,
magnifique.
Qui était sorti en 2007, voilà, et puis pour ses 3 romans suivants. Eh bien, il nous revient, non pas avec une fiction romanesque, mais avec un album jeunesse qui prend le parti de questionner directement les enfants. Alors ça s'appelle Tu préfères quoi ? Alors c'est plutôt drôle et derrière l'humour décalé se cachent finalement de vrais questionnements existentiels. Donc l'occasion de voir ce qu'en pensent nos chères petites têtes blondes. Et on doit les illustrations à
Camille de Cussac.
Camille de Cussac, exactement. Très coloré.
Tu préfères quoi ? Aux éditions Marcel et Joachim. Merci Annick. Un autre coup de cœur avec Thomas Auxerre en France.
Eh bien oui Emmanuel, un coup de cœur pour une bande dessinée qui s'appelle Atom Agency. En gros, on est sur la Côte d'Azur en 49, et puis on suit l'épouse du milliardaire Aga Khan. Elle vient de se faire voler ses bijoux, figurez-vous. Alors Yann Eschwartz, dessinateur et scénariste, part de ce fait divers qui aurait inspiré Hergé pour ses bijoux de la Castafiore, pour imaginer un trio improbable de détectives privés en chasse pour retrouver les diamants. Donc on suit Atom Verkorian, qui est un fils de flic arménien, il y a Mimi la souris, son assistante au caractère bien trempé, et Jojo la toupie, qui a une ancienne gloire du catch dans une ambiance très années 50. C'est très réussi, il y a plein de références, Aznavour, Lino Ventura, Léon Zitrone. Mais en fait, c'est jamais lourd ni cliché. Franchement, c'est la découverte de la fin d'année, c'est génial.
On part sur la Côte d'Azur donc.
Exactement.
Et on ira sur la Côte d'Azur dans un instant avec Guillaume Apollinaire. Merci Thomas. On termine avec un coup de gueule suisse, Dominique Bressou.
Oui, moi j'ai un coup de gueule sur le Black Friday. Ça, vous aimez bien hein, quand je parle comme ça.
J'adore. Oui. Alors on dit vendredi fou. Hein. Vendredi fou au Québec, fou. C'est mieux.
Alors c'est l'arnaque totale en fait. Le moyen utilisé par des grandes chaînes pour se débarrasser de stocks d'invendus et dans la foulée,
pas
vous
toujours,
les faire payer plus cher. Certaines étiquettes de produits sont recouvertes en hâte pour cacher que le prix soi-disant baissé est le même que le prix normal.
Oui.
Le problème pour nous, c'est
quel rapport avec la librairie.
Eh ben voilà, justement, c'est que placé très stratégiquement fin novembre, les gens achètent beaucoup moins avant, peu après, et que l'illusion règne que les clients ont fait de bonnes affaires. Et pour ces petites librairies que tout le monde semble pourtant apprécier dans le paysage, c'est catastrophique parce que c'est à Noël que les ventes de livres grimpent en flèche, normalement.
Et en plus, on se rabat sur autre chose que des livres. C'est ça que vous voulez dire.
Eh ben voilà, entre autres.
Le vendredi fou, retenez ça donc, Dominique.
Oui.
Laurence Campa est dans la librairie francophone pour une anthologie illustrée de poèmes d'Apollinaire parue chez Gallimard. Laurence vous expliquait en introduction qu'Apollinaire n'aimait pas les contraintes, comme beaucoup d'entre nous, hein, je dirais, mais chez lui, ça allait assez loin au point d'oublier ses rendez-vous.
Ah oui, et ses amis l'ont beaucoup reproché. Hein. Il avait des agendas, mais il écrivait tout autre chose dans les agendas que ses rendez-vous, justement. Et donc, dans ses archives, on a des tonnes de notes. Pourquoi n'es-tu pas venu? Est-ce que tu viendras demain? Et même Picasso, par exemple, qu'il a pris comme témoin pour son mariage avec une danseuse des Balearius en 1918, lui écrit la veille du mariage, est-ce que tu vas venir au mariage demain?
Ça va très loin. C'est un rêveur, Guillaume Apollinaire. Dès l'enfance, il se passionne pour les arts et les lettres. Il est né à Rome d'une mère polonaise qui ira s'installer à Monaco. Là-bas, il est inscrit au grand lycée bourgeois Saint-Charles, réputé. Il reçoit une éducation religieuse et il écrit ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans.
Oui, il a tout de suite senti qu'il voulait être poète. Il voulait être aussi journaliste, il était Dreyfusard, il voulait être traducteur. Enfin, il voulait vivre justement de toute façon de sa plume et de la littérature. Mais ça va se faire tout de suite. Il va falloir qu'il attende 1908, donc c'est-à-dire à l'âge de 28 ans, pour vivre entièrement de sa plume en tant qu'éditeur, journaliste, critique d'art, etc.
Alors, il vivra à Cannes, à Nice, puis à Paris. L'œuvre de Guillaume Apollinaire sera marquée comme ça par son enfance et son adolescence dans le sud de la France, mais aussi par son passage par la Belgique. À Stavelot, il y va un jour et il rencontre une certaine Marie Dubois.
Oui, qui est une jeune fille du coin, en fait, qui est la fille d'un cabaretier de la place, hein, et qui est aussi comédienne. Il en tombe amoureux et c'est grâce à elle qu'il exerce à lire de poètes amoureux, justement. Hein, les premiers poèmes d'amour qu'on connaisse de lui sont adressés à cette fameuse Marie ou Mareille en wallon. Il essaie même d'écrire en wallon.
Alors, les wallons. Il apprend la langue.
Oui, il apprend la langue parce que toutes les langues l'intéressent. Alors, les wallons disent que, en fait, c'est un wallon un peu bizarre. J'étais sur la RTBF il n'y a pas très longtemps. C'est ce qu'on m'a dit justement. Mais ce qui l'intéresse, c'est la sonorité, ce sont les formes des lettres, etc. Et donc, ses premiers poèmes d'amour viennent justement de Stavelot, mais il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'en fait, le paysage aussi l'inspire beaucoup. Il ressemble, c'est un paysage de roman de chevalerie, c'est assez mélancolique. Donc c'est très différent de ce qu'il connaît de la Côte d'Azur, où les couleurs sont beaucoup plus franches.
Mais les ruptures amoureuses, c'est vrai que ça va le bouleverser comme ça à chaque fois. On doit à ces douleurs amoureuses sa poésie, en quelque sorte.
Lui-même le reconnaissait, de toute façon. Il disait que ça le faisait chanter, en quelque sorte. Mais il fallait pas que la douleur dure trop longtemps.
Apollinaire va écrire pour des revues, il va fréquenter les artistes de l'époque, mais il dépend toujours de sa mère. Et ses besognes alimentaires, à la banque notamment, ça l'ennuie un peu. Il n'arrive pas à publier un premier recueil de poésie. Alors en 1907, il va jeter sa haine et son désespoir dans un roman radical, presque pornographique.
Complètement pornographique.
Oh, ça, aujourd'hui ça passe, mais...
Vous l'avez relu récemment.
Oui, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Les 11 000 verges, le fameux livre. Oui. Et il faut savoir que quand il avait 18-19 ans, il lisait déjà des récits érotiques à la bibliothèque. Donc
avec Antoine, on parlait d'amoralisme tout à l'heure, d'identité sexuelle, etc. Ça l'a toujours beaucoup passionné, les romans qu'on appelle de second rayon, c'est-à-dire qu'on cache derrière le premier rayon de la bibliothèque, parce qu'il a toujours pensé qu'il y avait une force, une fécondité dans ces romans-là, qui était extrêmement stimulante et inspirante, et puis aussi que ça pouvait être de la vraie littérature.
Mais pourquoi il se défoule en écrivant ce livre comme un,
en 1907,
comme une réaction,
c'est parce que justement, il vit toujours chez sa mère, parce que Annie Pleden, l'inspiratrice de la chanson du mal-aimé, est partie en Amérique, n'a jamais voulu l'épouser.
Ouais, c'est ça aussi,
Il n'arrive pas à écrire, justement, enfin, il n'arrive pas à publier, ses premiers vers et à s'imposer comme poète, véritablement. Donc, il a une espèce d'énorme frustration, il en veut à tout le monde, et donc, il jette toute sa haine, tout son désespoir dans ce livre.
Il tente tout, quoi.
Qui tente tout, qui transgresse tout, qui essaie tout, et en fait, il exerce aussi son entière liberté.
Ouais. Voyez Antoine Waters. C'est parfait, hein.
C'est
l'érotisme,
parfait,
la transgression, tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est nickel.
Ouais, mais je retiens surtout Zone, moi, d'Apollinaire.
Oui, alors je vais lire un passage de Zone tout à l'heure. Juste avant, on va laisser la parole au libraire Laurence Campa. Ils vont vous parler de Guillaume Apollinaire et on va commencer avec Thomas en France. Est-ce qu'on vend toujours la poésie d'Apollinaire en librairie?
Alors écoutez, oui, Emmanuel, on vend des ouvrages d'Apollinaire. Alors notamment quand c'est l'anniversaire aussi de la naissance ou de la mort d'un auteur, hein. Évidemment, c'est un peu propice. Alors c'est pas encore l'émeute chez nous, hein, mais les lecteurs s'y intéressent. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas tous des férus de poésie. Il y a aussi des lecteurs occasionnels qui se disent, tiens, pourquoi pas. Donc, on n'y est pas encore, c'est sûr. Mais pour Noël, oui, je pense que ça va très, très bien marcher et ça va remarcher.
Et il y a beaucoup de gens qui lisent Apollinaire par les 11 000 vers, justement, qui ne connaissent que ça. Les lettres
ou
à loup.
Alcool aussi,
Même. Mais enfin, il y en a beaucoup qui entrent dans la chez Apollinaire par les lettres à loup, par tout ce qui est érotique, en fait, et qui ne connaissent pas forcément.
C'est une porte d'entrée.
C'est une porte d'entrée. Donc, Madame de Roy avait raison.
Sans jeu de mots, bien sûr. En Belgique, quel est l'impact d'Apollinaire dans votre librairie Annick Dor?
Je dirais que sur le tout public, il n'est pas énorme. On a plutôt des ventes qui se résument dans la majorité des cas à des prescriptions scolaires, donc des jeunes qui viennent acheter alcool, calligramme et tout ça, parce que ça leur est un petit peu imposé. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, on vend par contre beaucoup le roman du Belge Christian Libens, qui évoque justement le séjour d'Apollinaire en Belgique à Stavelot, et donc il s'appelle La forêt d'Apollinaire aux éditions Weyrich. Et donc finalement, on a presque plus de ventes d'un livre sur Apollinaire que de recueils d'Apollinaire lui-même, ce qui est finalement un peu un comble, mais voilà, c'est comme ça.
Écoutez la voix d'Apollinaire.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit.
La voix d'Apollinaire. Et Apollinaire, adapté en musique à plusieurs reprises pour ce poème, Le Pont Mirabeau, chanté par Léo Ferré, Serge Reggiani et plus récemment par Marc Lavoine. Laurence Campa, vous avez l'air ravi. On va laisser la parole aux libraires à nouveau qui ont lu votre livre, Laurence, avec le Canada et Jérémy Laniel, qui est notre grand spécialiste poésie, les fans de poésie depuis toujours. Jérémy, que pensez-vous de l'ouvrage signé Laurence Campa de l'anthologie?
Mais le regard et l'amour que pose Campa sur Apollinaire est autant brillant complice tout au long de la préface et des textes qu'on retrouve en fin de livre. Il fait aussi bon lire et découvrir autre chose que calligramme ou encore alcool, surtout que le livre est magnifique, l'édition avec les illustrations qu'on y retrouve, qu'il fait bon de retrouver ce Guillaume Apollinaire.
Dominique Bressou, en Suisse, quel est votre point de vue?
Le même que Jérémy, c'est vraiment le petit livre à offrir à ceux que vous aimez. Il est absolument splendide, évidemment pour les poèmes d'Apollinaire, mais aussi par le choix de l'iconographie. Et on pourrait se dire, en fait, qu'il était bien inutile d'ajouter une préface à ce livre. Mais en fait, l'écriture de Laurence Campa fait qu'en quelques pages à peine, on a l'impression de mieux connaître Apollinaire et de l'apprécier. À offrir, mais vraiment toute l'année, à ceux qu'on aime vraiment.
Voilà Laurence Campa.
Je suis ravie, je suis très fière.
Dans votre anthologie, il y a ce poème « Zone » dont parlait Antoine Waters, qui ouvre d'ailleurs le recueil « Alcool » et qui est un très long poème, une formidable déambulation, inspirée aussi, dites-vous, par sa séparation avec l'artiste Marie Laurencin, qui lui avait été présentée par Picasso.
Oui, ils vivent une histoire d'amour qui dure à peu près 5 ans, de 1907 à 1912. Ils travaillent ensemble, ils se rapprochent l'un de l'autre. Apollinaire déménage pour habiter près d'elle, donc... à Auteuil, et tous les deux justement s'inspirent l'un l'autre. Elle va peindre notamment en 1909 un grand tableau qui va le représenter avec ses amis, et c'est un tableau qu'on peut voir à Paris.
Alors dans ce poème, Zone, il y a une déambulation qui résume un peu sa vie, parce qu'on passe par différents endroits, il raconte tout ça. Alors c'est un poème comme ça qui est très narratif, et ça va inspirer un courant que l'on appellera ensuite la poésie narrative. Il fait référence à plein de choses dans ce poème-là.
À toutes ses expériences, à ses sensations, à ses rêves, à ses cauchemars aussi, à ses inquiétudes. C'est vraiment un poème à la fois de l'instabilité et de la quête de l'identité. Au fond, qui suis-je? Qui suis-je dans la ville moderne? Qui suis-je dans mes voyages?
Maintenant, tu es au bord de la Méditerranée, sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année. Avec tes amis, tu te promènes en barque. L'un à Nisarthe. Il y a un manteau de nasque et deux turbiasques. Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs. Et parmi les algues, nagent les poissons images du sauveur. Et un peu plus loin, il dit « Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. » Et là, il fait référence à cette fameuse histoire où il a été emprisonné à la prison de la Santé en France pour une histoire de complicité de vol.
Absolument. Et là, vous êtes tout à fait dans le juste, Emmanuel. Et donc, je dois vous faire un aveu, c'est que mon anecdote, elle est à moitié fausse.
Celle de tout à l'heure.
Oui, celle de tout à l'heure est complètement vraie. Elle est à moitié fausse simplement parce que je n'ai jamais trouvé le brouillon de la chronique. donc il n'existe pas. Peut-être qu'il existe, mais en tout cas je ne l'ai pas.
Vous
je
avez
pas
menti
trouvé.
Tout à l'heure.
J'ai
en
pas
début
menti.
D'émission.
Je vous ai raconté une fiction.
Ah bon, d'accord. Alors, c'était pas prévu comme ça.
pour vous surprendre.
Alors allez-y, Emmanuel. Ouais,
et surtout, ma fiction, elle dit une vérité. C'est bien là que je voulais en venir parce que j'ai une idée derrière la tête. Ouais. Et cette vérité, c'est qu'on continue à attacher. Le vol de la Joconde au personnage d'Apollinaire.
Oui. Mais alors, c'est au même moment, on vole la Joconde au
Louvre.
Mais alors,
je ne dis pas absolument. Ensuite, il se trouve que cette histoire de vol concomitant du vol de la Joconde est liée à des statuettes, enfin à des têtes ibériques en pierre qui étaient dans l'atelier de Picasso.
Volé par un ami à lui.
Voilà, volé par un ami d'Apollinaire, alors qu'il est en train de peindre les Demoiselles d'Avignon. Mmh. Donc suppression de la ponctuation d'un côté, c'est-à-dire un coup de force. De l'autre côté, les Demoiselles d'Avignon qui sont un vrai coup de force.
Oui.
Et vol de la Joconde. Et la Joconde, c'est la Renaissance. Or, les cubistes disent, nous sommes en train de faire une nouvelle Renaissance. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Marcel Duchamp prend une carte postale de la Joconde, lui met des moustaches, l'appelle elle à chaud au cul. Et à ce moment-là, c'est un geste de désacralisation de l'art. Et donc, dans notre imaginaire, à mon avis, on lit toutes ces histoires parce que même le faux dit quelque chose de vrai.
Je suis perdue, Laurence.
Je suis désolée. Et voilà, là, c'est vous êtes vraiment compliqué. Surpris ouais, par mon histoire.
Oui, vraiment. Il y a tout un lien. Hein. Réécoutez l'émission au début ou écoutez-la.
C'est pour parce encourager que... au podcast.
Oui, c'est ça. La balade de diffusion, elle est faite pour vous aujourd'hui. Et puis, il y a la guerre, Laurence Campa, avec Guillaume Apollinaire. On a beaucoup parlé de cette période et de ses correspondances avec Lou. Engagé le 4 décembre 1914, il sera blessé le 17 mars 1916 et va mourir de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, deux jours avant l'armistice. Il y a un poème dans votre anthologie, Laurence Campa, qui illustre la guerre. C'est la nuit d'avril 1915. En voici un extrait.
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons, cœur obus, éclaté, tu sifflais ta romance, et tes mille soleils ont vidé les caissons que les dieux de mes yeux remplissent en silence. Nous vous aimons, ô vie, et nous vous agaçons. Les opus miaulés, un amour à mourir, un amour qui se meurt et plus doux que les autres. Ton souffle nage au fleuve où le sang va tarir, les opus miaulés.
Lecture de notre collaborateur Christophe Magère. Guillaume Apollinaire, qui meurt donc à 38 ans, laissant peu d'œuvres publiées de son vivant, Laurence Campa. C'est une histoire triste, sa vie.
Oui, c'est très triste. Hein, il est arrêté en pleine course, bah hein, ouais. Sa trajectoire s'arrête.
Que des douleurs, que...
Il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans la vie, et une capacité de survie, une croyance dans ses facultés poétiques qui est assez extraordinaire quand même. Mais justement, il y a les deux chez lui. Ouais. Il y a à la fois de la tristesse, de la mélancolie, du tragique, mais aussi de la joie, de l'amour. Donc chacun peut y trouver ce qu'il veut. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi populaire. C'est parce que chacun peut projeter ce qu'il a envie de projeter à différents moments.
Merci beaucoup Laurence Campa.
Merci Emmanuel.
Merci d'être venu dans cette émission. Tout terriblement, anthologie illustrée de poèmes d'Apollinaire est parue chez Gallimard. À noter aussi la parution d'un coffret dont vous avez parlé Thomas Auxerre il y a quelques semaines.
C'est vrai.
Alcool illustré par les aquarelles de Louis Marcoussi.
C'est un coup de cœur et ça l'est toujours.
Magnifique. Voilà, en trois cahiers en fait dans un coffret et c'est aussi chez Gallimard un joli cadeau. Merci. Merci Laurence.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse française Marion Rouxin et un extrait de La Rivière.
Elle marchera pour ses enfants, elle marchera pour ses amours, pour la liberté, pour le vent, pour pouvoir chanter nuit et jour. Elle marchera jusqu'aux barrières que d'autres auront pourtant posées. Elle marchera en marche arrière ou sur les mains ou de côté. Allant tout droit sur son visage, juste un sourire comme visière. Allant tout droit dans son sillage, elle creusera une rivière. Peut-être d'autres rejoindront sa marche silencieuse et lente, faisant mûrir vers l'horizon la joie insoumise, insouciante. Nous marcherons dans les clairières, dans la pénombre et la clarté. Oublions saisons et frontières, plus personne pour nous arrêter. Allons tout droit, sans un virage, sans jamais regarder derrière.
Marion Rouxin avec La Rivière, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la réalisation Marie-Hélène Fauquet et Fabrice Lègle avec Alexandre Chénet, Thierry Dupin à la prog musicale. La rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, ce sera le grand retour de Laurent Godet dans la librairie francophone. Entre autres, sacré programme, restez fidèles à cette émission que vous plébiscitez partout dans le monde. Merci encore. Bonne semaine, bon week-end à tous.